c'est pas parce qu'on s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. C'est, on comprend très bien les enjeux, c'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Les massacres que les soldats onisiens ont commis contre le peuple haïtien, surtout le peuple et des bidonvilles.
Sécurité. Ce qui arrive, c'est que ça permet au gouvernement canadien de détenir quelqu'un sans charge, sans accès à la preuve.
On oublie souvent les questions de base qui définissent ce conflit. Ce conflit, c'est avant tout un conflit sur la terre.
De l'avortement. Alors, c'est pour ça que je suis ici avec ma fille, ma belle fille, qui la relève. On continue.
Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de parte de los zapatistas.
Bienvenue à cette édition de En bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Cette semaine au programme, on va vous parler de des nouvelles un peu d'actualité en vous proposant un regard un petit peu alternatif. On sera en entrevue avec Michel Chosudovski pour parler de la situation en ce moment en Libye. Alors je n'en dis pas plus et je vous laisserai découvrir l'angle d'approche du sujet pendant l'entrevue. Ensuite, on aura l'anti-hebdo qui sera exceptionnellement un petit peu plus tôt aux alentours de 9h30 et on finira avec une collaboration avec Sekaya et Voix de Fait sur le budget Bachan, donc le budget du gouvernement du Québec. Restez avec nous et bonne émission.
Bonjour Blandine. Alors comme tu le disais, cette première partie de l'émission est dédiée à la Libye. Alors samedi dernier à Montréal, il y avait une manifestation en soutien aux révoltes populaires qui ont lieu dans le monde arabe depuis le début de l'année. Et à cette manifestation, un des organisateurs, Monsieur Mourad Benfassi, posait la question publiquement, à savoir pourquoi le Canada intervient en Libye alors qu'il ne fait rien pour déloger les autres dictatures. En effet, le Canada est impliqué dans l'intervention militaire en Libye depuis maintenant une dizaine de jours. Il a envoyé 2 avions patrouille, 2 ravitailleurs, 1 frégate, 7 chasseurs CF-18. Pour celles et ceux qui savent pas ce que font les chasseurs, eh bien, ils bombardent. Depuis mardi dernier, le Canada bombarde la Libye. Et on estime qu'il y a 435 soldates canadiennes qui participent à l'opération mobile qui est en fait l'opération du Canada en Libye en ce moment, qui s'encadre dans les actions jusqu'ici menées par l'Alliance Atlantique et maintenant, depuis aujourd'hui, si je me trompe pas, prise en main par les forces de l'OTAN qui sont commandées, notons-le, par un Québécois, le commandant Charles Bouchard. Alors, pour parler de l'intervention de la Libye et répondre à la question de M. Bourad Benfassi, à savoir pourquoi le Canada intervient en Libye, nous avons avec nous Michel Chossodowski, directeur du Centre de recherche sur la mondialisation.
Oui, bonjour.
Bonjour, Michel. Merci de prendre votre temps pour collaborer à l'émission. Alors, que répondriez-vous à M. Mourad Benfassi? Pourquoi le Canada, pourquoi les forces occidentales interviennent en Libye plutôt qu'ailleurs?
Bon, d'abord, il faut comprendre que ce qui se passe en Libye est totalement différent de ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte. Il ne s'agit pas d'un mouvement populaire, il s'agit d'une insurrection armée localisée initialement à Benghazi, à laquelle il y a différentes factions qui se sont joints et confirmées également, il y a des factions liées à Al-Qaïda. L'ironie, c'est que Kadhafi avait mentionné le rôle d'Al-Qaïda au début de la crise, mais maintenant c'est CNN qui confirme effectivement qu'il y a des éléments d'Al-Qaïda dans cette insurrection. Et par conséquent, ce n'est pas un mouvement de protestation, c'est plutôt une insurrection armée. Et la logique de l'insurrection et d'une guerre civile, c'est une question. La question de fond, c'est l'intervention, c'est le pourquoi de cette intervention étrangère. Elle n'a rien à voir avec l'objectif de venir à la rescousse de la population civile. C'est ce qu'on a soutenu au Conseil de sécurité des Nations Unies, le besoin d'intervenir dans une opération humanitaire afin de protéger les civils. C'est les termes de référence des Nations Unies. N'importe qui est familier avec les systèmes d'armement saura ce sont les bombes et les missiles qui tuent les civils. Et donc, ce prétexte est totalement fabriqué et il répond en réalité à des enjeux plutôt stratégiques et géopolitiques, à savoir que la Libye détient 3,5% des réserves mondiales de pétrole et de gaz, qui est le double de celle des États-Unis. C'est l'économie pétrolière la plus importante en Afrique. Et le but de cette guerre, en fin de compte, n'est pas différent de celle à l'endroit de l'Irak, à savoir prendre possession des réserves de pétrole et de gaz, privatiser et établir une zone d'influence américaine en Afrique du Nord. C'est ça l'enjeu et c'est très grave parce que là nous avons un quatrième théâtre de guerre. Les 3 autres sont l'Afghanistan, l'Irak et la Palestine. Et on doit comprendre aussi qu'il s'agit de la même guerre. C'est dans la perspective des Américains, c'est la guerre longue, the long war. Et d'ailleurs, ils le formulent de cette manière-là. C'est une guerre sans frontières. Et elle n'a rien à voir avec le but annoncé au Conseil de sécurité des Nations Unies de venir à la rescousse des civils ou de protéger la population civile.
Oui, en effet, on entend parler d'une guerre juste avec des immenses guillemets, mais dans les articles que vous publiez, entre autres pour le Centre de recherche sur la mondialisation, vous proposez de voir plutôt un processus de division néocoloniale. Donc, quand vous parlez de réaffirmer, de créer une zone d'influence en Afrique de la part des États-Unis, quelles sont les puissances qui étaient déjà là?
Bah, écoutez, d'abord, l'Afrique du Nord, historiquement, a été sous l'influence de la France, de l'Italie en ce qui concerne la Libye, et dans une moindre mesure l'Espagne. Je pense que le but de cette opération, c'est pas tout à fait clair en ce moment, c'est de renforcer l'emprise américaine en Afrique du Nord, ce qui aura pour conséquence également d'affaiblir le rôle de la France et de l'Italie.
Mm-hmm.
Mais le but aussi, c'est d'exclure des pays comme la Chine, qui ont des intérêts très importants en Libye. La compagnie d'État de pétrole de la Chine est très visible et a des activités en négociation, bien sûr, avec le gouvernement Kadhafi. Il faut faire très attention et comprendre qu'on ne vient pas à la rescousse de civils en bombardant et en envoyant des missiles. Les reportages qu'on reçoit sont très biaisés et on sait à partir de témoignages qu'effectivement beaucoup de ces bombardements sont en train de cibler les civils, notamment des zones résidentielles à Tripoli, des hôpitaux, des aéroports, des centres de communication. Et en réalité, ce qu'on a, c'est une réplique de ce qui s'est passé en Yougoslavie, où effectivement, les forces armées ou la force aérienne de l'OTAN avaient un mécanisme de présélection de sites. Et là, ils ont bombardé non seulement des installations gouvernementales et militaires, mais également toute une série d'institutions civiles telles que les hôpitaux, et je les ai vus. J'ai visité les hôpitaux au lendemain de ces bombardements. Ils ont également ciblé des églises afin d'effacer la mémoire historique. Alors, soyons un petit peu intelligents dans cette question-là. La guerre n'est pas une solution à un mouvement populaire. Ce n'est pas le mouvement populaire qu'on appuie, et il faut se poser la question, qui est cette opposition? Dans la mesure où il y a des éléments d'Al-Qaïda, c'est le groupe, en anglais c'est the Libya Islamist Fighter Group, c'est un groupe lié à Al-Qaïda, formé au Pakistan, en Afghanistan, et je note également que Al-Qaïda est une création de la CIA. Ça, c'est documenté en long et en large. Et les camps d'entraînement, c'était des camps également financés via le Pakistan et l'Arabie Saoudite par les services de renseignement occidentaux. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de fomenter une insurrection. On est en train de l'appuyer dans le but de renverser le régime dans le but d'établir une zone d'influence en Libye. Et ce n'est pas une question d'être pour ou contre Kadhafi. Kadhafi est un prétexte, on le diabolise, mais en réalité, le but, c'est de recoloniser un pays qui a, dans le contexte actuel, une certaine indépendance. Il contrôle sa société d'État du pétrole. Il recycle également les revenus du pétrole vers la population. Le niveau de vie en Libye est le plus élevé en Afrique. Il n'y a pas de chômage. Il y a zéro chômage. En fait, il y a 300 000 travailleurs étrangers qui vont vers la Libye, notamment à partir de l'Égypte et de la Tunisie. Il y a un service de santé qui est très développé. Et ça, c'est peut-être pas le produit de Kadhafi en soi, parce que Kadhafi en ce moment est plutôt impliqué, ou depuis quelques années, s'est plutôt rapproché des puissances occidentales, notamment la Grande-Bretagne et la France, et donc son pouvoir est sa posture est très ambiguë face à son propre pays, et ça je pense tout le monde le comprend. C'est un dictateur, c'est un démagogue sans doute, mais l'enjeu n'est pas celui-là. L'enjeu c'est la question de la souveraineté de l'État. La souveraineté du pays, et c'est et c'est également la question à savoir est-ce qu'une ingérence étrangère ne constitue pas une violation du droit international. Je dis oui, c'est une violation du droit international d'intervenir dans un pays sous un prétexte de venir à la rescousse d'un mouvement quelconque.
Et puis, Michel, si on retourne faire le lien avec l'intervention dite militaro-humanitaire dans les Balkans dans les années 90, dans ce cas-là, avant d'intervenir et pour justifier l'intervention, il y avait eu une ingérence occidentale avant les bombardements, donc avec financement ou entraînement de forces paramilitaires, que ce soit en Bosnie ou de l'armée de libération au Kosovo. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu la même stratégie dans le cas de la Libye, donc une ingérence pour fomenter l'insurrection armée avant l'intervention officielle?
Je pense que la question vaut d'être posée parce que, d'abord, cette notion de guerre humanitaire, elle est déjà érodée, elle est connue. Alors, les États-Unis, ceux qui sont responsables de la politique étrangère, ont repris les mêmes concepts, mais beaucoup plus que ça, aussi bien en Bosnie, avec l'armée musulmane bosniaque, au Kosovo, avec l'armée de libération du Kosovo, ces deux organisations étaient appuyées en sous-main par les services de renseignement, mais également ils étaient appuyés par Al-Qaïda. Donc des éléments islamistes ont intégré ces forces paramilitaires afin de déstabiliser le pouvoir du gouvernement. Et quel a été le résultat? La fracture de la Yougoslavie en 6 pays. Okay. Qui maintenant constituent en quelque sorte des territoires facilement manipulables, tant par l'OTAN que par les États-Unis, avec une base militaire au Kosovo qui est la base américaine Bond Steel. Effectivement, l'UCK, donc l'armée de libération du Kosovo, était appuyée par l'OTAN préalable à l'intervention militaire. On a également dit qu'on venait à la rescousse de la population albanaise du Kosovo, donc c'était l'objectif humanitaire, et que les Serbes commettaient des atrocités à l'endroit des civils. On s'est rendu compte, effectivement, mais on le savait même à l'époque, que ces atrocités avaient été commises par le groupe paramilitaire, l'UCK, qui maintenant, on le reconnaît, est lié au crime organisé, au commerce de la drogue, à la prostitution, etc. Mais néanmoins, son chef, Hashim Tashi, était protégé par Madeleine Albright à l'époque et a continué d'être appuyé, non seulement appuyé, mais ensuite on les a installés en tant que gouvernement. Donc l'UCK contrôle le gouvernement du Kosovo qui maintenant devient effectivement un pays indépendant. Alors cette notion d'utiliser les groupes islamistes au sein des mouvements d'opposition et ensuite de créer des divisions afin de fracturer les pays, c'est quelque chose qui est bien rodé dans la formulation de la politique étrangère américaine et dans l'action militaire.
Et dans le cas de la Libye, peut-on penser que le conflit actuel pourrait amener à une scission de l'est du pays? Et est-ce que ça répondrait à des intérêts impérialistes, disons-là, à des intérêts occidentaux?
Absolument. La question a déjà été soulevée aux États-Unis, à savoir effectivement, peut-être ça serait mieux de couper le pays en deux, ou en trois, ou en quatre. Il y a dans le mouvement qui a commencé à Benghazi, il y a des mouvements sécessionnistes, il y a des mouvements séparatistes. Et c'est certain que ceci serait à l'avantage du pouvoir occidental, parce que le pétrole est en bonne partie localisé à 75%, c'est localisé dans l'est de la Libye. Maintenant, j'aimerais revenir à la question du Canada et du lieutenant-général Bouchard. La participation du Canada, elle est basée sur le fait que nous sommes très imbriqués aux États-Unis sur le commandement. Et au niveau des implications maintenant militaires, etc. Le général Bouchard était commandant de la NORAD, donc d'une alliance bilatérale entre le Canada et les États-Unis, est très imbriqué aux structures de commandement des États-Unis. Alors, de facto, cette nomination permet aux États-Unis finalement de gérer l'action de l'OTAN, parce qu'ils ont un général canadien, mais un général canadien qui en réalité fait partie des structures de commandement entre les deux pays. Et d'ailleurs, la base militaire de NORAD est au Colorado, c'est pas au Canada. Alors, c'est très important de comprendre, en fin de compte, que notre participation, elle reflète aussi non pas une décision gouvernementale de Stephen Harper, mais plutôt le fait que nous sommes au niveau des structures de commandement militaire de plus en plus imbriquées aux États-Unis, et par conséquent, il y a une question aussi de souveraineté en ce qui concerne le Canada, à savoir, est-ce que chaque fois qu'il y a une guerre, le Canada va participer de facto parce que ses forces armées sont maintenant imbriquées à celles des États-Unis?
Et la participation du Canada, on pourrait penser qu'elle participe à légitimer une intervention en lui donnant un saut, justement en reprenant le discours de défense de droits humains, de mandat humanitaire, etc.
Absolument, absolument. Je crois que l'opinion publique est très a été un peu l'opinion publique a une posture assez confuse en ce moment, et c'est compréhensible parce que les médias nous ont mal informés sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y a eu des mouvements de protestation en Égypte, en Tunisie, mais ce qui se passe en Libye est totalement différent, et on nous fait croire, ce qui est absolument faux, que le mouvement de protestation en Égypte s'est répandu en Libye de manière spontanée, un peu comme si c'était quelque chose qui était au niveau d'une prise de conscience, et automatiquement ça se répand. C'est pas ça qui est arrivé. Tous ces événements ont été planifiés longtemps à l'avance. Et je devrais dire aussi, en ce qui concerne l'Égypte, il y a eu une manipulation de la part de fondations américaines liées aux services de renseignement, dont la National Endowment for Democracy, Freedom House et d'autres, qui ont des liens avec le mouvement du 6 avril, qui est le mouvement jeunesse, avec Kifaya, qui est un autre mouvement politique. Tous les mouvements, tous les leaders de ces mouvements en Égypte ont des liens à très haut niveau avec le département d'État, incluant Hillary Clinton, le conseiller à la sécurité nationale, la Maison Blanche, le Sénat, le Congrès, etc. Et ça ne veut pas dire que ce mouvement n'est pas significatif. Il l'est, le mouvement de base. Mais il y a eu un processus de cooptation des leaders qui ont trahi le mouvement populaire, Et c'est pour cette raison-là que le mouvement populaire ne s'en est pas pris aux États-Unis et au rôle que les États-Unis jouent à installer des gouvernements. Donc Moubarak s'en va, mais le régime pro-américain lié aux forces armées demeure intact. Et c'est ça qui est l'enjeu en Égypte en ce moment.
Monsieur Chouchevski, malheureusement, je dois vous arrêter. C'est tout le temps qu'on a, mais je pense que c'est un appel clair.
Alors, ça me fait plaisir d'être à l'émission.
Oui, et je pense que vous avez invité les gens à chercher d'autres sources d'informations que celles qu'on nous donne en ce moment dans les médias dominants. Et entre autres, j'inviterais l'auditoire à consulter vos articles sur l'insurrection et intervention militaire en Libye. Alors, pouvez-vous nous donner le lien?
Il y a deux sites. Un, c'est le site mondialisation.ca, qui est en français. Et l'autre, c'est globalresearch.ca, où nous publions sur une base quotidienne et on a une couverture très étendue sur la situation en Libye en ce moment.
Alors, Michel Chouchevski, je vous remercie beaucoup de votre participation.
Merci, au revoir.
Vous venez d'entendre Michel Chouchevski, directeur du Centre de recherche sur la mondialisation. Nous passons tout de suite en musique avec une chanson qui nous vient pas de la Libye, mais bien du Congo, du chanteur reggae Jawaid, qui parle de décoloniser l'Afrique et qui dénonce les interventions occidentales impérialistes en Afrique. Donc, vous verrez le lien avec le sujet de la Libye.
Rastafari, camouflage, Babylone veut étouffer les massacres qu'il y a en Afrique malgré les appels à l'aide. Cette hypocrisie, il faut la désamorcer. Sabotage, les médias français étouffent les massacres qu'il y a en Afrique malgré les appels à l'aide. Cette hypocrisie, il faut la désamorcer. Tous les coups d'État financés par l'Occident font énormément de morts pour le pouvoir et l'argent. Président mal intentionné commet des crimes imposés par Babylone, système et leur combine. Pour avoir les mains mises sur les richesses, ils oppriment des familles entières assassinées, ça me déprime. Si t'es témoin et que tu dénonces, ils te suppriment. Beaucoup trop de nos frères sont devenus des victimes des camouflages. Babylone veut étouffer les massacres qu'il y a en Afrique malgré les appels à l'aide. Cette hypocrisie, il faut la désamorcer. Sabotage, les médias français étouffent les massacres qu'il y a en Afrique malgré les appels à l'aide. Cette hypocrisie, il faut la désamorcer. J'ai dénoncé, ils ont voulu me liquider. Dans la rue, attaqué par des militaires armés. De nos jours, les droits de l'homme ne sont même pas appliqués. Les hommes des milices aiment la terreur dans tous les quartiers. Quand ils ont trop vu, ils n'hésitent pas à tirer. Les civils innocents se font martyriser. Et les coupables de ces crimes ne sont même pas jugés. Les politiciens agissent en toute impunité. Camouflage, Babylone veut étouffer les massacres qu'il y a en Afrique malgré les appels à l'aide. Cette hypocrisie, il faut la désamorcer. Sabotage, les médias français étouffent les massacres qu'il y a en Afrique malgré les appels à l'aide. Cette hypocrisie, il faut la
Raison pour changer votre matelas. L'usure du temps, la fatigue et le désalignement des ressorts, dommages causés par l'humidité, parasites, problèmes d'allergie, sommeil non réparateur, douleur au lever. Pour une ou plusieurs de ces raisons, afin de mieux dormir et pour votre santé, Lidor va vous aider. Pour votre nouveau matelas, c'est Lidor, 6552 boulevard Saint-Laurent, juste au nord de Beaubien. www.lidor.com.
Les rencontres berbères de Montréal, un voyage musical et culturel au cœur et autour de la culture nord-africaine à Montréal et dans le monde. C'est un rendez-vous tous les mercredis de 13h à 14h sur Radio Centre-Ville.
Reggae Dom, I bring back the people freedom.
L'émission Reggae Dom, c'est les mercredis de 14h à 15h sur Radio Centre-Ville, le 102,3 FM. Le meilleur de l'actualité sur le reggae francophone et créolophone. Venez vous délecter de la meilleure musique sur les ondes de la Radio du Soleil. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Down,
Radio Centre-Ville vous invite à visiter sa page Facebook. Un endroit où vous pourrez vous procurer de beaux cadeaux à bon prix. Venez voir ce qu'on vous offre. Recherchez la page de Radio Centre-Ville sur Facebook. De bonnes aubaines vous y attendent.
Depuis 35 ans, nous permettons aux Montréalais et Montréalaises de toute origine d'échanger et de construire sur ce qui les unit. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
De retour à En bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Alors, on était en musique avec une chanson du Congo de...
Jawise, une chanson du franco-congolais Jawise de son album sorti en 2006, Désamorcé, qui dénonce surtout le partage colonial, néocolonial de l'Afrique, particulièrement par la France.
Et donc, pour continuer sur des sujets aussi motivants et sympathiques, en revenant au Québec, on va enchaîner en vous parlant du budget du Québec. Une collaboration avec Sequoia, l'équipe de Voix de Fait, que vous pouvez retrouver sur internet voixdefait.blogspot.com. Et donc, François a réalisé un reportage documentaire. Donc, on y entend plusieurs intervenants. Le reportage a été... tous les enregistrements ont été faits pendant le huis clos des médias. Peut-être quelques mots sur le huis clos, ça vaut la peine. C'est une espèce de grand-messe médiatique durant laquelle les journalistes se retrouvent enfermés avec interdiction d'utiliser leur cellulaire entre 9h du matin et 4h le soir, le jour du dévoilement du budget, pour se faire expliquer en long et en large le budget pour être sûr qu'il n'a n'arrive pas à une conclusion hâtive et qu'une nouvelle inappropriée ne sorte dans les médias. Alors c'est un exercice auquel des radios communautaires insistent à participer, même si c'est pas toujours facile d'y faire sa place. Alors voici un petit reportage alternatif sur la question du budget.
Alors aujourd'hui, grande messe libérale pour le huis clos du budget. Donc des centaines d'experts, de journalistes, d'idéologues, de vendeurs d'assurance. Ça se rassemble au Centre des congrès à Québec pour assister à la remise du budget. On nous a remis en rentrant tout un paquet de documents, vraiment des pouces et des pouces de papier, des communiqués de presse, des analyses, des tableaux statistiques, vraiment un paquet de trucs. Et on a même deux clés USB pour être sûr qu'on n'en manquerait pas. Et puis là, on va... ensemble, on va regarder ça, on va s'entretenir avec nos amis du milieu communautaire et puis on va éplucher le budget puis on va vous en donner, on va vous donner nos impressions. Huis clos, budget, Parti libéral. Oh là là.
Je cherche un millionnaire, un type chic qui voudrait bien de moi, au moins une fois par mois, je cherche un millionnaire.
Je suis accompagné de François Saillant, du Frappru. Tes premières impressions?
Ben, dans le domaine du logement social, c'est clair qu'on est carrément furieux de l'annonce du budget.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, combien annonce?
Durant la campagne électorale de 2008, le premier ministre s'est engagé à financer 3000 logements sociaux par année pendant les 5 prochaines années. Or, dans le budget, on est rendu à 2000 logements. Et pire que ça, on dit, on fera pas d'annonce pour les prochaines années, mais on dit qu'on veut continuer à en faire, mais il rend ça conditionnel à de nouveaux modes de financement. Et à l'heure actuelle, ce qu'on sait, c'est que ces nouveaux modes de financement-là sont élaborés par la firme Cyrano. Cyrano qui, à l'été dernier, a produit un rapport dévastateur sur le logement social, a carrément mené une charge à fond de train sur le logement social, et maintenant on lui confie le mandat d'élaborer de nouveaux modes de financement. Ça, c'est comme confier la banque de sang à un vampire. Là. C'est pas plus compliqué que ça.
Le Parti libéral vous a pas écouté, là?
Pas du tout. C'est-à-dire qu'il nous a écouté sur une petite affaire qui était à la question du rabaissement de l'âge d'allocation au logement, mais on peut-tu dire que c'est pas beaucoup dans le portrait? C'est clair que la bataille contre le dernier budget s'est menée à... Il y a eu pas mal de monde qui sont descendus dans les rues, encore 50 000 personnes la fin de semaine passée. Il va falloir que ça se poursuive et éventuellement, il va falloir aller encore plus loin dans nos moyens de pression pour faire en sorte que ce gouvernement-là finisse par comprendre quelque chose.
Donc, il est 10h30, on est toujours dans le huis clos du budget. La salle commence à se remplir pas mal. Il y a pas mal de journalistes, d'experts. On sent une certaine fébrilité, une certaine nervosité aussi. les gens épluchent les documents, au moins les 10 pouces de documents du budget. Et puis là, il y a quelques passages que j'ai notés qui ont retenu mon attention. On dit mobiliser vers l'emploi les clientèles aptes au travail de l'assistance sociale en valorisant le travail et en les accompagnant dans leur mise en mouvement vers l'emploi. Donc, mise en mouvement vers l'emploi.
Donc, je suis en compagnie de Simon Tremblay-Pépin de l'IRIS. L'IRIS qui est?
L'Institut de recherche et d'information socio-économique.
Qui est un peu le pendant, mettons, de gauche de l'Institut économique de Montréal, si on peut dire ça comme ça.
On peut dire ça.
Exact. Donc, tes premières impressions?
On est face à une hausse des frais de scolarité, moins importante que ce qui a circulé, mais bon, c'est celle-là quand même, la plus haute hausse de frais de scolarité depuis plusieurs années, même 15-20 ans. C'est une hausse majeure des frais de scolarité. C'est une hausse qui va avoir des effets sur la fréquentation. C'est une hausse qui va avoir des effets sur l'endettement des étudiants. Donc, on est devant c'est probablement la mesure la plus importante du budget. Modification du régime des rentes également. Donc, les gens vont devoir cotiser davantage. Donc, tous les employés vont devoir cotiser davantage pour stabiliser le régime. C'est une mesure qui est sage de faire que le régime soit stabilisé. Cependant, le gouvernement se permet d'aller jouer un peu avec l'âge de la retraite. Donc, on encourage les gens à rester plus longtemps au travail. On essaie de les décourager de partir plus longtemps. Mais ce sont des mesures relativement mineures. À part ça, on a un changement du côté du gaz de schiste. Bon, tout ça, les redevances, on nous annonce des changements. En tout cas, une partie des nouvelles redevances, 25% de redevances vont être envoyées dans le fonds des générations qui sert à rembourser la dette. Alors, on voit que le gouvernement continue avec son obsession, la plus centrale depuis 10 ans maintenant, dette, déficit, c'est le seul mot. On garde le cap pour rembourser le déficit en 2013-2014. Au niveau des mesures sociales, c'est d'une pauvreté à pleurer. On a quelques places en garderie.
Tu as mentionné que les hausses de frais vont avoir un effet dissuasif sur l'accessibilité aux études. Pourtant, c'est marqué dans les documents du budget, c'est marqué à ceux qui craignent que cet ajustement ait un impact dissuasif sur la fréquentation universitaire, je dis ceci, rien ne permet d'établir un lien entre le taux de fréquentation universitaire et le montant des droits de scolarité.
Le ministre Vachon a une drôle de réflexion sur la question de la fréquentation universitaire, alors qu'on lui dirait que sur n'importe quoi d'autre, le prix influence la demande, ce que n'importe qui va accepter.
Et n'importe quel libéral accepterait.
Exactement. Eh bien, il semblerait que sur la question des frais de scolarité, il se ferme les yeux et dit non, il y a aucun effet. Pourtant, comment explique-t-il dans ce cas qu'il y ait 9% de plus de fréquentation postsecondaire au Québec que dans le reste des provinces canadiennes où les frais de scolarité sont plus élevés? C'est pas marginal, 9%. C'est franchement important. Et le ministre se ferme les yeux sur les conséquences que ça va avoir. Et plus encore, ça aura des conséquences sur la teneur des cohortes. C'est-à-dire que non seulement il va y avoir moins de monde, mais ce ne sera pas les mêmes personnes qui vont aller à l'université. C'est les gens plus fortunés qui vont se retrouver surreprésentés au sein des cohortes universitaires. Donc ça, c'est l'autre conséquence, c'est qu'on va encore renforcer, parce que l'université est déjà un lieu qui est majoritairement ouvert à ceux qui ont plus de moyens, ceux qui viennent de familles plus nantis, mais ça va renforcer cette tendance-là et éloigner les personnes les moins bien nanties des universités.
D'ailleurs, on pense à accroître de 50% les dons privés recueillis par les universités, ce qui porterait le financement à 165 millions de dollars. Donc, cet argent-là, c'est quoi exactement, ces dons privés-là?
C'est du wishful thinking complètement. Cela, le gouvernement ne peut rien faire. Il ne va pas forcer les entreprises à faire des dons. Donc, ils veulent améliorer le marketing des fondations universitaires, etc., etc. C'est vrai qu'il y a des universités au Québec qui se financent avec la fondation. L'Université McGill, par exemple, Concordia, une bonne fondation. Bon, quelques-unes disons, le monde anglo-québécois a davantage tendance à fonctionner sur des fondations. Il y a peut-être de l'argent à aller chercher là pour les universités. D'accord. Mais là, commencer à nous dire c'est un grand plan de refinancement, c'est n'importe quoi. Là, ça ne correspond pas du tout aux besoins que peuvent avoir les universités au niveau du financement. Donc, c'est aussi une transformation du financement. C'est qu'on vient de dire c'est la responsabilité des entreprises de donner selon leur bon goût. Hein. Aujourd'hui, je donne 100 000, demain, je donne 1000. À leur volonté de donner aux universités comme ça généreusement. Bon, c'est très bien s'ils le font. S'ils le font sans attache puis qu'ils mettent de l'argent, mais tant mieux, on va le prendre puis on va en faire quelque chose de bien. D'accord. Mais se fier là-dessus, c'est comme se fier sur la charité. Ça fait pas des mesures sociales, ça fait pas de la justice.
C'est facile d'être chic. Beaucoup de fric, c'est commode, c'est facile. compter. Quand on est argenté et qu'on n'a plus rien à compter, je cherche un millionnaire.
Je reviens un instant où, sur les piles de documents qu'on a reçus, sur lesquels est imprimé le budget. Ce qui est important de savoir, c'est que le gouvernement est responsable, donc ce sont tous des documents recyclés. Et pour être bien sûr de nous le faire bien comprendre, il y a 5 logos à la deuxième page de chacun des documents pour nous expliquer que c'est bel et bien du papier recyclé et probablement fait avec dans l'esprit du développement durable. Donc, premier logo, éco-logo, choix environnemental avec une belle feuille d'érable canadienne. Ensuite, il y a une belle feuille de gui, c'est marqué « procédé ». Sans chlore. Ensuite, il y a le troisième logo, c'est le symbole de recyclage, c'est marqué 100%. Ensuite, c'est biogaz, donc une espèce de belle flamme formée avec deux flèches, biogaz énergie. Et le dernier logo, c'est marqué recyclé, papier fait à partir de matériaux recyclés, si vous ne l'avez pas encore compris. Et pour être bien sûr encore, il y a une petite note en dessous, c'est marqué ce document est imprimé sur du papier entièrement recyclé, fabriqué au Québec, contenant 100% de fibres post consommation et produit sans chlore élémentaire. Donc, c'est le fun de se faire dire une fois que son document est recyclé, mais cette fois, c'est encore mieux.
Un budget équitable!
Il y a quelque chose que Raymond Bachand a parlé dans les derniers jours avant justement la remise du budget. C'est lui, il dit, moi, quand j'étais petit, je payais mon financement, ça représentait 26% des revenus globaux des universités, alors que maintenant, en 2009, la proportion des étudiants, c'est de 13%. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
C'est parce que là, le ministre Bachand choisit son année. C'est ça le problème. C'est que on pourrait regarder en 89, on pourrait regarder en 80, on pourrait regarder en 70. Et à chaque année, il y a un pourcentage qui est différent. Pourquoi est-ce que 68, qui choisissent arbitrairement, alors que c'est une année où il y avait justement des frais de scolarité, oui, relativement bas, mais par rapport au coût de la vie relativement élevé, tu sais, aujourd'hui, on regarde ça 500$, on se dit, bon, ça coûtait vraiment pas cher, mais en même temps, comparé au coût de la vie, c'était relativement élevé. Mais ensuite, il y a un été gelé pendant très longtemps. L'année d'ensuite, en 1969, les gens payaient une part moins élevée du financement des universités. De choisir une année comme ça, c'est un arbitraire total. Pourquoi celle-là? Pourquoi pas une autre? C'est quoi la juste part? À l'IRIS, nous, on a fait une étude qui est très simple. On a dit combien ça coûterait pour arrêter toutes ces histoires-là, enlever les tarifs et dire, ben, on met la gratuité scolaire. La juste part que les étudiants doivent payer pour leur université, c'est zéro. Ce qu'ils doivent payer, c'est des impôts quand ils sortent de l'université, quand ils ont de l'argent, quand ils sont des travailleurs. Puis, ils participent au système d'imposition. Nous, l'accessibilité, la capacité des gens à aller étudier pour augmenter leur savoir, mais aussi pour que la société en bénéficie, tout ça, ça nous importe peu. Ce qui nous importe, c'est de rentabiliser l'éducation.
On a parlé beaucoup d'éducation. Peut-être juste un dernier mot sur peut-être une mesure, peut-être positive. Je ne sais pas, ça va être à toi, Simon, de me le dire. L'intensification de la lutte contre l'évasion fiscale. On parle de créer une agence du revenu pour aller chercher plus d'argent. On parle même de 1,2 milliard de dollars qui seraient récupérés là, en évasion fiscale au cours des années prochaines. Toi, qu'est-ce que tu en penses?
C'est annoncé dans le dernier budget, c'est la transformation du ministère du Revenu en agence du revenu. C'est pas une très bonne nouvelle, pour deux raisons. D'un côté, c'est une agence qui va fonctionner à la rentabilité. Ça veut dire que le directeur de l'agence va être complètement autonome, va avoir des pouvoirs quasi ministériels, et son objectif va être de rendre rentable l'impôt au Québec. La rentabilité, ce n'est pas la justice. Donc, par exemple, admettons que quelqu'un fait de l'évasion fiscale pour 4 milliards de dollars, mais c'est une grosse corporation qui a une trollée d'avocats. C'est probablement moins rentable en termes strictement économiques d'aller chercher cet argent-là pour la première fois parce qu'on va devoir affronter des avocats, on va devoir affronter des comptables les plus ubuesques dans leur préparation. Donc, il va y avoir une armée de gens à affronter pour que le gouvernement aille chercher son argent. Il va peut-être même en perdre en allant chercher cet argent. Bon, je ne penserai pas sur 4 milliards, là, j'ai mis un chiffre immense, mais bon, il y a donc des choses qui sont difficiles à aller chercher. Mais si on est dans un esprit de justice, frauder le gouvernement de tel montant, ça, ça exigerait tout de suite une action. Si on est dans un esprit de rentabilité, on va se dire, non, mieux vaut aller chercher la coiffeuse qui a un salon de coiffure dans son sous-sol, puis qui reçoit des clients, puis qui fraude pour 1 000 $, parce qu'elle, elle va nous donner le cash tout de suite. Donc, on n'applique plus la justice, on prend le ministère du Revenu, en fait l'agence maintenant du Revenu, comme tout simplement une agence mindée sur l'argent qui va aller chercher le cash. C'est ça son objectif. C'est pas une excellente nouvelle. Si ça aide à la lutte à l'évasion fiscale, s'il y a plus de résultats, mais là, dans les dernières années, ça va pas très bien, la lutte à l'évasion fiscale, c'est plutôt en baisse. Donc, si ça les aide à faire ça, tant mieux, mais j'ai tendance à croire que ça aura plutôt l'effet inverse. Et quand on va pas chercher les gros poissons, parce qu'on dit que ça nous coûte trop cher, ça encourage les autres gros à le faire d'autant plus, parce qu'ils savent qu'ils sont protégés, puis qu'il n'y a personne qui va venir les embêter.
Tout va dépendre de la conjoncture, mais avec un peu de bonne volonté, ce gouvernement s'en sortira.
Assez lyrique, assez angéliste là, dans la section Investir dans le potentiel des Québécois. On parle de l'école 2.0, la classe branchée. Donc, il suffit de voir avec quelle aisance les enfants s'approprient la technologie dans leur jeu pour comprendre que la salle de classe doit aussi parler leur langue.
Donc, je suis accompagné de Robin du collectif pour un Québec sans pauvreté. Dis-moi, Robin, c'est quoi les points saillants du budget?
Ben, en fait, c'est un budget qui ressemble beaucoup à celui de l'an passé, évidemment. C'est un budget qui se situe dans la droite ligne de ceux des dernières années, c'est-à-dire une ligne d'augmentation des écarts de richesse. Donc, une égalité de revenus, très peu d'annonces au niveau de la lutte à la pauvreté. C'est un budget décevant. L'année passée, on a touché beaucoup au niveau de la santé. Cette année, c'est vraiment à l'éducation qu'on s'attaque particulièrement. C'est en droite ligne. En fait, depuis 96, avec le déficit zéro proclamé par Bouchard, peut-être le budget d'Yves Séguin en 2004 qui a fait une différence. Sinon, ça a été des budgets qui ont tous eu comme conséquence de réduire l'action gouvernementale dans la réduction des inégalités. Donc, on voit très, très bien que l'action gouvernementale est de moins en moins efficace et que le marché crée de plus en plus d'inégalités. Donc, au niveau de la pauvreté, au niveau de l'appauvrissement, au niveau de l'accroissement des inégalités, ce budget-là est comparable aux autres. Et les effets, les véritables impacts, tu peux pas calculer ça l'année d'après ou dans 2 ans, c'est sur plusieurs années. Donc, c'est réellement programmatique dans ce sens-là.
Là, tu parles, le marché crée des inégalités. Qu'est-ce que propose le collectif pour un Québec sans pauvreté au lieu justement d'obéir aux règles du marché?
Ben, en gros, il y a deux possibilités pour le gouvernement. Soit de mieux répartir les revenus à la base, c'est-à-dire s'attaquer au monde du travail, au marché justement, et augmenter par exemple le salaire minimum, soit de mieux redistribuer par la suite. Ce budget-là ne fait ni l'un, ne fait ni l'autre non plus. Et il y a plusieurs mesures. Il y a de la richesse qui existe au Québec. On pourrait parler de l'imposition d'un nouveau palier d'imposition. On est très, très proche là-dessus de la coalition opposée à la tarification, à la privatisation des services publics. Oui, oui. On est membre et on partage les positions. Donc, on a des positions qui sont très, très proches à ce niveau-là. C'est vraiment au niveau des ressources naturelles, des redevances qui soient plus élevées pour justement l'exploitation des richesses qui appartiennent à tout le monde. Donc, ce n'est que quelques exemples et aussi, évidemment, aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire on parle de l'imposition des compagnies.
Peut-être pour finir, Robin, un mot pour décrire le budget?
Inégalité.
C'est quand même assez amusant. Il y a toutes sortes de gens au cours du huis clos. Bon, il y a beaucoup de journalistes, beaucoup d'experts, mais la définition d'expert est peut-être quand même des fois assez large. On peut voir toutes sortes de gens se côtoyer, comme par exemple il y a Nathalie Elgrabi-Lévy de l'Institut économique de Montréal et son ami Éric Duhem qui est là aussi. Il y a Claudette Carbonneau, il y a François Saillant du Frappru, les gens des associations étudiantes FEUC-FEC, il y a des gens de l'IRIS, Raymond Bachand qui vient d'entrer. Donc, je suis en compagnie de Marie-Ève Rancourt, porte-parole de la coalition opposée à la tarification et à la privatisation. Donc, tes réactions sur le budget?
Bien, écoute, c'est très, très décevant, évidemment. C'est pas avec grande surprise qu'on a pris connaissance de ce budget-là. Évidemment, un gouvernement qui maintient le cap, comme il l'avait annoncé la semaine dernière, c'est-à-dire maintien des mesures régressives, taxe santé, tarifs hausse fulgurante des tarifs des frais de scolarité, maintien de la hausse des tarifs d'hydroélectricité pour les années à venir. Donc, un appauvrissement à prévoir de la classe moyenne. Puis, en matière de lutte contre la pauvreté, il n'y a que des miettes. Donc, évidemment, je pense que dans les années à venir, on peut s'attendre à un accroissement des inégalités sociales, un accroissement également de la classe moyenne basse qui vont glisser dans la pauvreté. Plus au niveau des frais de scolarité, là, qu'on a vraiment pu prendre connaissance des détails concernant cette hausse-là. Donc, à terme, on parle d'un baccalauréat qui va coûter près de 15 000 $. Donc, ça ne va faire que perpétuer le cycle de la pauvreté. Ça constitue, encore une fois, une discrimination qui est basée sur le statut socio-économique de ces gens-là et c'est déplorable.
Les gens, comment ils vont réagir face à ce budget-là?
Bien, nous, on espère qu'ils vont réagir avec indignation et avec colère, puis il y aurait raison. Je pense qu'on a raison de s'indigner de telles mesures budgétaires. C'est pas pour rien que y a le Conseil du patronat puis la Chambre des commerces applaudissent à ce genre de budget-là. Évidemment, c'est un budget qui plaît aux grandes entreprises, qui plaît aux personnes les plus nanties. Pourquoi? Parce qu'elles conservent leur richesse, parce qu'elles ne redistribuent pas la richesse. Donc, de notre côté, nous, on va maintenir un plan d'action, le plan d'action qu'on avait déjà établi. Donc, on va maintenir la pression, on va y aller avec des actions de plus en plus dérangeantes. On invite évidemment la population à y participer, à nous suivre, à exprimer également son mécontentement. Et on espère que le gouvernement va finir par entendre raison.
Mais c'est quand même décevant, tu sais, quand on voit justement, il y a quelques jours, il y a eu une manifestation extrêmement importante, la première manifestation de l'Alliance de la Coalition Ensemble. Il y a eu même des tentatives d'occupation de bureaux de ministres. Le Frappru a fait montrer la pression. Il y a eu une caravane très récemment. On voit que ça n'a pas influencé le gouvernement. Alors, on se dit, est-ce que ça donne quelque chose, finalement, toutes ces pressions-là?
Bien, c'est bien évident que c'est un gouvernement qui gouverne avec un dogme néolibéral en tête. Il a des théories du libre marché qu'il ne fait qu'imposer aveuglement. Maintenant, on pense qu'il faut nécessairement maintenir la pression, continuer les actions, dénoncer ce gouvernement-là et puis exiger des mesures plus justes. Exiger, en fait, d'un gouvernement qui fasse sa job, c'est-à-dire gouverner pour la population et non pas pour une petite clique d'amis du parti ou pour une petite poignée d'élite économique.
Mais est-ce qu'on peut penser à un durcissement des moyens de pression, quelque chose des actions encore plus agressives peut-être?
Mais évidemment, je pense que ça va dépendre de la colère des gens, ça va dépendre de l'indignation des gens. Je pense que oui, on peut s'y attendre. Évidemment, ça reste à suivre, mais nous, on espère que compte tenu de la ligne dure que tient le gouvernement, on pense que nous aussi, on va maintenir notre ligne dure.
Pour finir, Marie-Ève Rancourt, un seul mot pour décrire le budget?
déplorable.
Car je sais que ces oiseaux rares veulent placer leurs dollars. Je cherche un millionnaire. C'est pour ça que je fais le boulevard.
Et voilà, c'était les derniers mots du huis clos du budget. La conclusion, ben, fiez-vous pas trop aux urnes pour régler la question de l'égalité et de la justice dans cette société. D'ailleurs, on entendait tout à l'heure les explications du Parti québécois qui étaient complètement enchevêtrées dans ses explications sur la hausse ou l'inflation ou le gel des frais de scolarité. C'est vraiment pathétique de voir ça, des policiers comme ça. Alors, faut pas se fier aux urnes. Si on veut avoir des résultats, c'est en descendant dans la rue, en prenant son destin à soi-même dans ses mains, qu'on va pouvoir y arriver. Alors, la conclusion.
C'était un reportage de François. Vous pouvez retrouver tout le reportage complet et d'autres informations sur voixdefait.blogspot.com. Alors, il nous reste à peine quelques minutes en bas à gauche avant de vous laisser avec la suite de la programmation à Radio Centre-Ville. On va vous faire un rapide anti-hebdo. Alors, ce soir, à ne pas manquer une tournée de Juan Haro et Maria Mercado du mouvement pour la justice dans le quartier, qui est un mouvement hispanophone basé dans le quartier de Harlem à New York, qui seront à Montréal pour parler de stratégie, faire des liens et partager les histoires et les luttes de leur mouvement. Alors, c'est ce soir au Centre Saint-Pierre. Ça va être au 1212 rue Panet, à la salle 200 au métro Baudry. Donc, présentation et discussion sur la gentrification de New York à Montréal. Notre ville nous appartient. C'est un événement qui est appelé par plusieurs groupes du Cooperg Concordia, du Cooperg McGill, No One is Illegal, Solidarité sans frontières, Justice Migrante, etc. Alors, à ne pas manquer, ce soir, 19h, au Centre Saint-Pierre. Rapidement, à ne pas manquer non plus, pour faire le lien avec le reportage sur le budget, la manifestation de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. Donc, la CIF vous invite à une manifestation contre la hausse des frais de scolarité. Le 6 décembre dernier a eu lieu la rencontre des partenaires en éducation. Cette journée n'a permis de conclure qu'une chose. Le gouvernement est déterminé à aller de l'avant avec son projet de hausse des frais. Donc, il y a une hausse prévue de 1 625 $ sur les prochaines 5 années. Alors, c'est un rendez-vous. Donc, jeudi le 31 mars à 13h, rendez-vous devant le Centre du commerce mondial au 747 rue Square Victoria, au métro Square Victoria, pour avoir plus d'informations et sur les prochaines actions également. Notamment, il y a un camp de formation de l'AC qui est ouvert au public en fin de semaine. Vous pouvez aller sur leur site web ac-solidarité.qc.ca, bien évidemment, le tout sans accent. À ne pas manquer non plus, dans le cadre des soirées du réseau Abya Yala, ressources, terres et autonomie populaire, lundi soir à 19h, une soirée proposée par Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier, donc les gens de Atenco, avec une conférence sur Mont San Pedro au Mexique, donc sur le sujet de l'appropriation des ressources et de l'exploitation minière. Vous l'aurez compris, ça sera au bar spectacle L'Absinthe au 1738 Saint-Denis. Donc à ne pas manquer non plus, puis beaucoup d'autres événements que vous pourrez retrouver sur le Centre des médias alternatifs du Québec, cmac.net ou l'agendamilitant.info. C'est ce qui conclut cette édition d'En bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Vous pouvez retrouver le contenu de nos émissions sur le blog enbasagauche.wordpress.com. Et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine avec une nouvelle programmation, eh bien, nous vous laissons avec le bel âge et la suite des nouvelles et informations sur Radio Centre-Ville.
Aimeriez-vous donner un coup de pouce à votre chiffre d'affaires? Votre entreprise est-elle dans la grande région de Montréal? Aimeriez-vous rejoindre de nouveaux clients potentiels? Radio Centre-Ville vous invite alors à vous faire connaître davantage. Plusieurs auditeurs de diverses communautés de Montréal pourront entendre parler de votre entreprise sur nos ondes. Pour vous renseigner sur les communautés que nous rejoignons et sur les possibilités qui s'offrent à vous sur Radio Centre-Ville, téléphonez au 514-495-8836 ou écrivez-nous à publicité. publicité@radiocentreville.com. Au plaisir de parler de votre entreprise sur Radio Centreville.
Ici Judith Ouimet, sur les ondes de Radio Centreville, je vous propose une émission entièrement consacrée à la danse et à ses artisans. C'est un rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis dès 13h.
Dermalis, soins anti-âge visage et corps. Dermalis, soins esthétiques pour femmes et hommes. Dermalis, traitement exclusif. 514-289-2626 ou visitez dermalis.ca.
Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail.
Ces 10 dernières années ont été riches en émotions. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif allant jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit. C'est confidentiel.
C'est toujours mieux de vérifier. Juste pour être sûr. Sûr, sûr, sûr.
Faites valoir tous vos droits avant le 30 mai 2011. Un message de la Commission de l'équité salariale.
Plusieurs langues, plusieurs communautés, une même implication sociale. Radio Centreville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.